Patrick Chauvel, grand reporter de guerre depuis plus de 50 ans, les conflits de ces 5 dernières décennies, c'est simple, il les a tous couverts. De la guerre d'Indochine en 1968 à celle qui sévit toujours en Ukraine, il s'est rendu sur 34 théâtres d'opération, a été blessé 7 fois par balle ou par obus, bref, à 76 ans, ce photojournaliste est inépuisable. Il continue de couvrir les différents conflits et d'informer sur ce qui se passe réellement, et il expose une partie de ses clichés au mémorial de Caen. Pour information, cet épisode a été tourné avant les précédentes élections américaines. Patrick Chauvel, bonjour. Pour commencer, est-ce qu'il y a un lieu qui vous est cher, un lieu qui vous a marqué dans cette belle région normande?
Qui me cher, c'est peut-être un grand mot, mais j'aime beaucoup Bayeux parce que ça fait plus de 20 ans que j'y vais. J'aime beaucoup Caen parce que c'est une ville agréable, à dimension humaine. On peut pratiquement tout faire à pied dans les endroits intéressants. Ils ont réussi à préserver le peu qui avait été épargné par les bombardements. Donc c'est une ville intéressante. Toute la région est intéressante, elle est chargée d'histoire. Il y a le château de Vouilly, un peu plus loin, près de Dizigny, qui est un château incroyable, parce que c'est là que s'était réunie toute la presse internationale pendant le débarquement, en juin 1944. C'était les conférences de presse et le centre de presse organisé par l'armée américaine se faisait au château de Vouilly. Ils m'ont invité, je suis allé là-bas faire une conférence. C'est incroyable comme endroit parce que la famille Hamel a conservé la pièce où il y avait tous les journalistes avec les machines à écrire. Il y a les photos de grands reporters comme Robert Capa, Ernie Pyle, et on sent dans ce château toute l'histoire. Donc il y a entre le mémorial de Caen, le festival des grands reporters de guerre à Bayeux, le château de Vouilly, les plages de débarquement, le cimetière allemand, le cimetière américain. Ça, c'est pour parler de l'histoire avec un grand H. C'est palpitant. Et en plus, le premier grand reportage en images qui ait jamais été fait, c'est quand même la tapisserie de Bayeux. Donc, il y a une logique dans tout ça. Et j'aime bien le tout. Alors, évidemment, il y a les plages magnifiques. Non, c'est un endroit agréable. Très, très chargé d'histoire. Et ça me va. Parce que moi, l'histoire m'intéresse. La grande histoire. Pas les petites histoires.
Et sur vos 58 ans de couverture de conflits, quelle est la meilleure chose que votre activité de photojournaliste vous a permis de réaliser?
La chance que j'ai eue, c'est d'assister au monde en marche et à l'histoire qui se fabrique et les frontières qui bougent et les grands mouvements historiques, donc la fin des colonies, les dernières guerres coloniales, la guerre froide, la guerre du Vietnam, ce sont des événements importants qu'on verra dans les livres d'histoire. Et moi, ce qui m'intéresse dans ce métier, c'est qu'au lieu de lire ça dans les livres d'histoire, je l'ai vécu. Donc je vis mon siècle à plein, je le subis, je le vis, je le raconte. Pour moi, tous les événements des 50 ans passés m'intéressent vraiment, tout. Il n'y a pas un endroit particulier, tout est passionnant parce que c'est ce qui nous fabrique, c'est ce qui fabrique les nouvelles générations, c'est ce qui fabrique la qualité de vie. On est un peu des sentinelles, nous les journalistes qui sommes sur les guerres, on prévient, enfin on essaye de prévenir des dangers, on les annonce. Voilà, moi, j'ai pas été surpris par ce qui s'est passé à Gaza. Peut-être surpris par l'ampleur de l'attaque du Hamas, mais pas surpris. Gaza était une cocotte minute, c'était pas une surprise que d'un seul coup, ça explose. Ce qui se passe avec la Russie et l'Ukraine, il est évident que ça allait aussi péter à un moment donné. Donc, moi, je suis arrivé en Ukraine pour la guerre 4 jours avant le début de l'invasion. Parce que je sentais le coup venir, parce que j'avais été plusieurs fois en Ukraine. Donc voilà, c'est passionnant de vivre l'histoire avec un grand H.
Vous dites vivre l'histoire, mais vous participez aussi à l'écriture de sa mémoire.
Bien sûr, on ne travaille pas que pour la presse, on travaille pour la mémoire collective, nous.
Est-ce qu'il y a une chose que vous regrettez dans votre vie?
J'aurais bien couvert la Deuxième Guerre mondiale, quand même. C'était un événement important, mais bon. Là, je serais mort, donc, si j'avais fait ça, donc... Non, pas vraiment, je ne regrette pas grand-chose, non.
Et votre plus grand rêve, alors?
Je réaliserais bien des films de fiction sur ce que j'ai vécu. Ou en tout cas, participer à des films de fiction sur des histoires que j'ai vécues. C'est peut-être en cours en ce moment, sur un de mes livres, donc on va voir. Mon livre s'appelait Sky, sur l'histoire d'une rencontre entre un jeune photographe et un métis apache nord-américain au Vietnam. Donc j'ai écrit ce récit romancé, et en ce moment on est en train de faire un scénario, et on cherche des acteurs, et ça va peut-être se faire, parce que c'est quand même des films qui coûtent 20 millions d'euros, donc là on passe à la vitesse supérieure, c'est pas le prix d'un reportage qui coûte à peu près 5 000 euros. Ça, c'est un rêve. J'aimerais bien pouvoir au moins en faire un. Parce que je trouve que raconter l'histoire en tant que journaliste, c'est bien. On est des conteurs, que ce soit à travers la radio, la photo, la télévision ou le texte. Mais pour toucher un public beaucoup plus large qui ne s'intéresse pas forcément à la presse, la fiction, c'est vraiment intéressant. Parce que d'un seul coup, vous mettez un acteur connu, et les gens vont écouter et donc s'imprégner d'une histoire vraie, même si elle est romancée, et donc d'un seul coup être au courant de ce qui se passe. Voilà, les films sur la Deuxième Guerre mondiale, il y a plein de jeunes qui n'étaient pas au courant de ce qui s'est passé. Soldat Ryan, il y a plein de jeunes qui savaient pas, qui connaissaient rien au débarquement en Normandie et qui s'intéressaient même pas à ça, mais qui se sont intéressés au film avec Matt Damon, et d'un seul coup, ils ont découvert leur propre histoire à travers la fiction. Donc c'est un aller-retour qui m'intéresse, c'est-à-dire la réalité, le talent du journaliste qui va raconter avec les divers moyens qu'il a, et d'un seul coup, un réalisateur de cinéma qui va prendre plusieurs récits de reporters et en faire une fiction.
Vous avez couvert énormément de combats, mais quel est votre propre combat à vous ? Votre combat personnel ?
Moi, je suis à la recherche de la vérité. Alors, elle est glissante. Il faut avoir de la chance pour la trouver. La première victime de la guerre, c'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est vrai, c'est la vérité. On voit, par exemple, des gens comme Donald Trump ou Poutine qui sont de la même veine, qui ne passent leur temps à dire des contre-vérités pour justifier leurs actes. Et nous, les journalistes, normalement, c'est d'aller chercher la vérité pour les contrer, justement. Et pour que les gens ne se trompent pas quand ils vont voter ou ne se trompent pas quand ils vont juger l'histoire. Donc on cherche les preuves partout. On vit l'événement avec des soldats, avec des civils, mais au niveau à hauteur d'homme, pas au niveau politique, où les politiques s'arrangent avec leurs idées ou leurs besoins. Après, il y a les gens qui subissent, et en général, c'est souvent les gens qui subissent qui détiennent la vérité quelque part. Donc nous, on cherche cette vérité pour après que les gens qui ont commis des actes épouvantables soient rendus responsables de leurs actes. On peut travailler aussi pour le TPI, quelquefois.
TPI, le Tribunal Pénal International ?
On est des témoins. Des témoins de crimes, des témoins d'injustice. C'est un des buts de notre métier. La presse, c'est juste un morceau de notre métier.
Cette phrase de Kipling que vous citez fait écho à l'expression qui déclare que l'histoire est écrite par les vainqueurs. Est-ce que chercher la vérité va de pair automatiquement avec la quête d'objectivité ?
On essaye d'être objectif. Après, je suis aussi victime de mon éducation, d'où je viens. Un journaliste français de mon milieu ne va pas forcément raconter la même histoire qu'un Africain ou qu'un Israélien ou qu'un Palestinien. En tout cas, il aura une sensibilité différente. Mais c'est pas très grave, parce qu'en fait, le public, s'il a envie de savoir, il a qu'à écouter les reportages des trois. Nous, on propose, après, avec effectivement notre sensibilité qui ne représente que notre monde à nous. Et on représente quoi, nous? Moi, en tant que photographe français, je représente quoi? 0,10% de l'humanité, je veux dire, c'est rien du tout. Mais c'est au moins la vérité vue de mon point de vue, mais on peut très bien, si les gens veulent savoir, ils ouvrent divers journaux, ils se renseignent, ils regardent sur Internet, aujourd'hui c'est facile. Le problème d'Internet, c'est qu'il y a pas mal de contre-vérités non vérifiées. Les réseaux sociaux sont le pire ennemi des journalistes. On a perdu notre crédibilité qui était notre seule force. Les gens n'aiment plus les journalistes, ne croient plus les journalistes. Ça, c'est le travail de SAP de Donald Trump, hein, qui a fake news, c'est son grand truc. Il essaye de rendre nulle la vraie presse pour balancer ses informations bidons, hein. Donc à partir de là, ça a créé une espèce de mouvement de doute. Voilà, et puis les complotistes qui expliquent qu'on n'a jamais marché sur la Lune, que la Terre est plate, et que les deux tours ont sauté de l'intérieur, qu'il n'y a jamais eu d'avion. Bon, tous ces gens-là sont des gens dangereux parce qu'ils racontent n'importe quoi, mais ils touchent un énorme public sur les réseaux sociaux, ce qui n'était pas le cas il y a 20 ans. Ils parlaient dans le vide.
Est-ce que vous avez des modèles dans votre vie, des personnes qui vous ont inspiré ou que vous admirez encore aujourd'hui ?
D'abord, il y a mes confrères, hein. J'ai des grands journalistes comme Ernie Pyle, comme Robert Capa, mais il y a aussi des vivants. Moi, j'ai beaucoup de respect pour mes confrères actuels, qu'ils soient jeunes ou plus âgés. Rémi Rodan, Adrien Jaulme du Figaro, Rémi Rodan du Monde. Voilà, Gaël Girbe, une jeune photographe, comme Véronique de Vigry, sont des jeunes photographes qui sont sur le terrain. Moi, je trouve que c'est formidable d'avoir toute cette ces gens plus jeunes que moi qui prennent le relais et prennent les mêmes risques. Après, il y a des grands philosophes, il y a des grands écrivains, Albert Londres, Kessel, Kipling, tout ça, c'est des gens qui m'ont inspiré, Conrad, Pierre Schoendorfer, mon père, tout simplement, pour être au plus près, qui a été un aventurier, mais avant tout un résistant, un soldat à l'âge de 17 ans, qui s'est battu, qui a été gravement blessé à la frontière allemande, et qui m'a inspiré par ses récits et sa ligne de conduite. Il était dans un mouvement de résistance à 16 ans et ensuite il s'est engagé en montant sur son âge à Londres et dans la 2e DB, il était spahi 2e DB. Et voilà, donc il a fait une vraie guerre et dès le début, pas résistant de la dernière heure. Son meilleur ami s'appelait Pierre Schoendorfer qui a épousé la sœur de mon père, donc c'est devenu mon oncle. Était caméraman à 24 ans pendant la bataille de Tiananmen Fu. Leurs amis, c'était Joseph Kessel, c'était moi qui avait été pilote de chasse en 16, qui a écrit Le Chant des Partisans. Donc j'avais cette chance d'avoir ces gens-là autour de moi, qui me racontaient leurs histoires et qui m'ont mis sur la bonne voie.
Vous avez été véritablement bercé par ces récits et cet entourage. Je pense que c'est pas tout le monde qui a grandi aux côtés de Joseph Kessel. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire que cette vocation était prédestinée pour vous ?
C'est vrai, mais j'ai aussi un frère et une sœur qui n'ont pas suivi le chemin, qui avaient le même... Donc oui, effectivement, ma voie était un peu toute tracée quand même, mais je suis tombé dedans quand j'étais petit.
Question qu'on pose à tous nos invités, quelles qualités aimeriez-vous qu'on retienne de Patrick Chauvel ? Et au contraire, quels défauts n'aimeriez-vous pas qu'on lui attribue ?
Humble, c'est une qualité. Pour moi, le journalisme, c'est l'art de l'effacement. Bon, donc je ne devrais pas répondre à votre interview. À défaut, d'être prétentieux, de parler trop de moi. Encore une fois, je ne devrais pas répondre à votre interview, donc. Mais en même temps, à partir d'un certain moment, il faut quand même raconter, si c'est à travers soi, pourquoi pas. Mais il ne faut pas exagérer avec ça, c'est un des défauts aujourd'hui, c'est le côté narcissique des gens et de certains reporters. De se mettre en avant, notre métier, c'est au contraire de parler des autres. Moi, je vois certains reportages où le journaliste est dans tous les plans. Et j'ai vraiment envie de le baffer, quoi. Dire, mais casse-toi, quoi. Qu'on le voit à un moment donné, 3 secondes, pour comprendre qui parle à qui, et ensuite qu'on voit l'Ukrainien ou l'Ukrainienne, mais qu'on le voit dans le même plan tout le temps, et avec son casque et son gilet pare-balles sur le toit de l'hôtel à Kiev, alors qu'il risque absolument rien, c'est ridicule, quoi. C'est grotesque. Qu'on me croit pas que je perde ma crédibilité, ce serait le pire défaut, quoi. Parce que c'est notre seule force, de dire la vérité, en tout cas celle auquel on croit.
Question-réponse un peu plus rapide à présent. Est-ce que vous avez un plat préféré ?
Je sais pas, le thon en boîte. Moi, je suis reporter, moi, je suis pas cuisinier. Moi, je suis pas très bon là-dedans, mais on va dire l'escalope normande, comme ça, voilà, hop, on reste dans le thon.
Et votre juron préféré ?
Merde. J'aurais pu dire ventre Saint-Gris, ou ça perd l'hypopète. Mais ça perd l'hypopète, ça surprend. Hein.
Un livre préféré ?
Oula. J'aime beaucoup le livre de Gaston Boutou, qui raconte la guerre, qui s'appelle La polémologie. Il a fait une étude sur la guerre. C'est un livre de référence pour moi. C'est essayer d'étudier, de comprendre le phénomène guerre. Sans ça, bon, c'est tous les livres de Kessel, de Schoendorfer, de Kipling. Donc c'est pas un seul livre. Sans ça, quand j'étais jeune, j'ai relu plusieurs fois Le Chevalier de Pardaillan de Michel Zévaco. J'adorais Alexandre Dumas, même si sa devise n'est pas du tout la mienne. C'est « J'ai souvent tordu le cou à la vérité, mais je lui ai fait de bien beaux enfants ». C'était des romans, donc. Mais j'aimais bien ce côté romantique, justement. Et puis quand j'étais jeune, je rêvais de plaies et de bosses, comme Le Chevalier de Pardaillan, de cap et d'épée, être coureur automobile, pilote de chasse, enfin, etc.
Finalement, c'est parce que vous avez trouvé dans votre métier, blessé à de multiples fois, 7, on le disait en introduction, c'est un risque à prendre.
Mais ça prouve qu'une chose, c'est qu'on est maladroit, comme disait Napoléon. Être blessé, c'est pas une médaille, c'est le contraire. Bah, c'est un métier dangereux, donc on n'est pas surpris quand on en prend une, hein, mais c'est agaçant quand même. D'abord, ça fait 4 ou 5 mois, voire 8 mois pour certaines blessures, où on rate plein de reportages quand même. Donc là, moi je me rappelle que quand j'étais... dans des plâtres ou à l'hosto, je devenais dingue en regardant les nouvelles dans le monde entier.
À présent, votre film préféré ?
C'est difficile, ce genre de question, parce qu'on est au moins 20 des films préférés. J'ai beaucoup aimé Kingdom of Heaven de Ridley Scott, c'est sur les chevaliers et Jérusalem. C'est romancé, évidemment, mais c'est très très beau.
Et qu'est-ce qui vous empêche de dormir la nuit ?
La guerre atomique.
C'est une éventualité pour vous ?
J'espère que non, parce que je pense que si les Russes s'y mettent, ils sont... Moscou sera transformé en parking dans les 10 minutes, donc personne ne gagnera.
Qui riposterait ?
Nous, les Américains, tout le monde.
Nous, la France ?
Oui, elle a tout à fait les moyens de détruire la Russie, hein, sans problème. Si Paris est annulé, on ne va pas leur dire merci. On a des sous-marins qui sont placés dans le monde entier, personne ne sait où ils sont, même pas notre gouvernement, qui ont des missiles, une dizaine de missiles, qui chacun font à peu près 100 fois la puissance d'Hiroshima. Donc, et Poutine le sait, ça. C'est dès qu'un silo s'ouvre et qu'un missile part, il lui faut, on va dire, une quinzaine ou une vingtaine de minutes pour atteindre la France. Donc pendant ces 20 minutes, nos missiles le touchent. Moi, je pense que la puissance, les deux puissances s'annulent, pour le coup, j'espère. Ou alors ce serait vraiment débile. Mais bon, Poutine n'a pas prouvé qu'il était non plus très logique. Mais il n'est pas seul. Je pense qu'il y a aussi des gens derrière lui qui pourraient à un moment donné lui dire « ça suffit ». Je ne suis pas sûr que ce soit le pire des gens au gouvernement à Moscou. Je pense qu'il peut y avoir pire après lui.
Est-ce que vous croyez en Dieu ?
Je respecte ceux qui croient à quelque chose, en tout cas. C'est une affaire très personnelle, ça. Donc, c'est sûr que je ne crois pas à Barbu assis sur un nuage qui compte les points. Mais je vois beaucoup de gens qui se tournent vers la religion quand ils sont en difficulté, et pourquoi pas, si ça peut les aider. Et puis j'aime bien ce côté, j'aime bien les gens qui croient, tout court, que ce soit à Dieu ou autre chose, mais ce sont des gens qui croient. Et ça, c'est une manière d'être romantique.
Et vous-même, vous croyez en quoi alors ?
Ouais.
En la vérité, comme on l'évoquait tout à l'heure ?
J'essaye de croire à la vérité. J'essaye de la trouver, en tout cas. Dieu, il agit pas beaucoup, hein. Mais bon. Non, j'aime bien le bouddhisme. Je trouve ça assez sympa. Il croit en la réincarnation. Donc j'aime bien quand les types évitent une grenouille, au cas où ce soit leur grand-père. Ça me fait marrer. Au moins, c'est une religion plutôt sympa. Ils peuvent être violents aussi, hein, mais quand on est contre eux, mais j'aime bien ce côté plutôt doux, comme ça, dans le... Moi, ce que j'aime bien, c'est les religions qui essayent pas d'imposer leur religion. Quand on commence à me dire, il faut que tu crois ça parce que sans ça tu te trompes, ça marche pas là. Je fais ce que je veux.
Je vais vous laisser le mot de la fin. Un seul mot, en conclusion.
Je vais repartir.
Et où ?
Israël, je pense là, au nord d'Israël. Parce que je pense que les Israéliens commencent à vouloir attaquer le sud Liban. Donc je vais aller voir la semaine prochaine.
Deux semaines après le tournage de ce podcast, Israël lançait effectivement une offensive terrestre dans le sud du Liban.